Bonjour à tous.
D'abord, lettre de Jean. Pourquoi lettre de Jean? Parce que si vous prenez aussi bien l'entête que la conclusion des trois écrits qui nous sont parvenus sous cette appellation, vous verrez que nulle part il n'est question de Jean. Autant Paul, alors j'allais dire signe ses lettres, alors on signe pas à la fin, on signe au début à cette époque-là. Vous prenez toutes les lettres de Paul, absolument toutes, vous verrez que ça commence toujours par Paul, apôtre de Jésus-Christ. Même chose pour Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Jacques, apôtre de Jésus-Christ. Jude, même chose. Et donc, il y a dans le Nouveau Testament, l'expression est faite pour choquer, donc ne le prenez pas mal, il y a quatre lettres anonymes. Il y a la lettre aux Hébreux, dont on a longtemps pensé, mais je vais y venir après, sur la méthode. On a longtemps pensé qu'elle était de Paul. L'opinion majoritaire aujourd'hui considère que non, il n'y a aucune raison de penser qu'elle est de Paul. Et puis donc ces trois lettres qui sont attribuées à Jean. Alors pourquoi est-ce que on ne prend pas le risque pour la lettre aux Hébreux de dire elle est d'un tel ou un tel, mais on dit c'est la lettre aux Hébreux et on ne connaît pas l'auteur, alors que pour les lettres de Jean, qui sont exactement de la même manière, sans signature, si je puis dire, en tout cas sans identification de l'auteur, pourquoi est-ce qu'on ose dire lettre de Jean? C'est pas effectivement une donnée essentielle, mais ça me paraît intéressant de jeter un éclairage là-dessus. Il y a deux arguments. Il y a deux arguments qui poussent à identifier l'auteur de ces lettres à Jean, donc Jean l'apôtre, du coup. Jean, le fils de Zébédée, c'est-à-dire un disciple de la première heure, disciple choisi par Jésus au bord du lac. Qu'est-ce qui nous fait dire c'est lui qui a écrit ça? Alors, la première lettre, elle est complètement anonyme, puisqu'il n'y a absolument aucune identification d'auteur. Les deux autres, puisqu'il y en a trois, dont une un peu plus grande et deux toutes petites, les deux toutes petites, il y a une forme d'identification, mais qui ne nous renseigne pas beaucoup, c'est-à-dire que ça commence, mais vous le savez tous, par, c'est traduit comme ça de manière habituelle, on ne va pas changer le mot, l'ancien, l'aîné. C'est-à-dire que c'est le même mot qu'on utilise pour les responsables de l'Église, alors presbytéros en grec, mais peu importe, qui veut dire l'ancien, alors aussi bien l'ancien en âge, mais pas tellement en âge, qu'en sagesse. Alors l'ancien, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a de la bouteille et qui a aussi une autorité, parce que par exemple, quand Paul dit à Timothée, il faut dans chaque église instituer des anciens, il dit des anciens, il met au pluriel. La direction, pour Paul, la direction d'une église, c'est nécessairement collégial, il n'y a jamais de singulier. Et la seule fois dans le Nouveau Testament où le mot ancien ou aîné, si vous voulez, est employé au singulier, c'est là. C'est l'auteur de ces lettres qui dit l'ancien. Alors, ça veut dire que c'est pas un ancien d'une église, c'est quelqu'un qui s'autorise, d'où une certaine autorité, qui s'autorise à se qualifier comme ça, c'est-à-dire parmi les anciens, dans les églises, moi je suis l'ancien. Pour comprendre de quoi il s'agit, il y a 50 ans, alors pour ceux qui étaient déjà sur cette planète il y a 50 ans, il y avait en France une armée comme il y a toujours eu, avec des généraux, mais quand on disait « le général », il n'y avait pas besoin d'ajouter « de Gaulle ». On savait que « le général », c'était « de Gaulle ». Il y a eu plusieurs empereurs en France, quand on dit « l'empereur », on sait que c'est Napoléon. Bon, enfin, je ne vais pas décliner ça à l'infini, mais ça veut dire que parmi tous les gens, et à cette époque-là, il y en avait dans chaque église, et plusieurs par église, qui peuvent revendiquer le titre d'ancien, lui, il est à part. On pourrait presque traduire, si ce n'était pas péjoratif, on pourrait presque traduire « le vieux ». Mais le vieux au bon sens du terme, c'est-à-dire celui qui, alors je vais être encore plus vulgaire, le taulier, si vous voulez, ça veut dire ça. Et c'est quelqu'un qui parle avec autorité, c'est donc quelqu'un. Enfin, mais je disais, il y a deux arguments pour attribuer ça à Jean, il y a un argument historique et un argument littéraire. L'argument historique, c'est que, on n'en a peut-être pas conscience, parce que nous, on a notre Bible qui est notre livre de chevet, et on lit la Bible et la Bible et encore la Bible, mais les écrits du Nouveau Testament ont été choisis, et l'histoire en a fait les textes sacrés, mais ont été choisis parmi d'autres, et parmi de nombreux autres. C'est-à-dire que, à cette époque-là, y compris dans l'Église, il n'y avait pas que les gens dont on a compilé les textes pour en faire le Nouveau Testament, il n'y avait pas que ces gens-là qui écrivaient, il y en avait d'autres aussi qui écrivaient. Et alors, il y a une discipline en théologie qui s'appelle la patristique de pater, le père, c'est-à-dire ce qu'on appelle les pères de l'Église, ce sont des gens qui ont écrit des textes, parfois des lettres, il y a des lettres aux Corinthiens, par exemple, qui ne sont pas de Paul, hein, mais les Corinthiens recevaient beaucoup de courriers. Il y a des lettres comme ça qui circulent, des textes, qui sont attribués à ceux qu'on appelle les pères de l'Église. Alors évidemment, plus on est proche de l'époque contemporaine de Jésus, plus c'est intéressant, parce que plus on apprend, j'allais dire, sur le, à chaud, comment les choses se passent. Et donc, quand on étudie la patristique, donc les écrits des pères de l'Église, on apprend beaucoup de détails fort intéressants qui ne sont pas dans le Nouveau Testament sur la manière dont les choses se passaient. Et bon, là, par exemple, pour ce qui nous intéresse, alors c'est comme ça, par exemple, qu'on sait que les précautions, ou plutôt les mises en garde de Paul à l'église de Corinthe, je prends Corinthe parce que il disait il recevait beaucoup de courriers. On sait que malheureusement, quelques décennies plus tard, ça n'a pas empêché l'Église d'exploser. Comme quoi, les fractures dans les Églises, c'est ni du XXe siècle ni du XXIe. Ça commence au IIe siècle. Donc tout ça pour dire que pour le sujet qui nous occupe, les pères de l'Église attribuent, alors citent abondamment, enfin abondamment pour certains d'entre eux, citent ces textes, ces lettres, en les attribuant clairement à Jean l'évangéliste, Jean le disciple, Jean l'apôtre. Et autant il y a des sujets sur lesquels les avis sont divergents, autant là il y a une convergence d'analyse qui font qu'il est très difficile de ne pas croire tous ces gens qui unanimement disent que ces lettres sont des lettres de Jean. Ça, c'est l'argument historique. On a toujours, depuis le tout début, et quand je dis le tout début, c'est des gens qui étaient contemporains, hein, c'est pas des gens qui viennent 50 ans plus tard ou un siècle plus tard, c'est des gens qui vivaient en même temps que Paul, en même temps que, voilà, en même temps que Jean, et qui écrivaient, et qui disaient, et qui citaient ces textes-là, en disant, ça c'est des lettres de Jean. Bon. Mais ça pourrait ne pas suffire. Le deuxième argument, il est littéraire, c'est que la façon d'écrire, enfin l'écriture, c'est comme les empreintes digitales, ou c'est comme l'ADN, on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire que chacun a son non seulement son style, c'est pas seulement une question de style, mais il est très facile, surtout avec le progrès des sciences dans ce domaine, il est très facile d'attribuer, ou en tout cas de constater que deux écrits sont du même auteur. Parce que il y a la façon d'écrire, il y a les sujets abordés, il y a le vocabulaire, il y a la grammaire, il y a la syntaxe, il y a tout ce que vous voudrez qui font que, de la même manière qu'on n'est pas deux à avoir les mêmes empreintes digitales, on n'est pas deux à écrire de la même manière. Et là, quand on fait une analyse, alors c'est d'ailleurs comme ça le résultat des études, ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est aperçu que, je prends volontairement un exemple ailleurs, la Septante, donc la traduction grecque de l'Ancien Testament par les savants d'Alexandrie, a titré un livre de l'Ancien Testament « Lamentation de Jérémie ». Et on s'est aperçu que, ils avaient fait ça sans doute avec de bonnes intentions, mais ça n'a rien à voir dans tous les domaines que j'énumérais tout à l'heure, c'est-à-dire les sujets abordés, la grammaire, la syntaxe, le vocabulaire. Ça n'a, le livre des Lamentations n'a rien de commun avec le livre du prophète Jérémie. Donc, il faut quand même admettre dans ces cas-là que le livre des Lamentations n'est pas de Jérémie. Il n'y a plus grand monde aujourd'hui qui soutient ça. Même chose, j'en parlais tout à l'heure, on a longtemps pensé que l'épître aux Hébreux était de Paul. Quand on analyse soigneusement les choses, on s'aperçoit que non, c'est très 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 peu probable. En revanche, quand on analyse aussi rigoureusement les fameuses lettres, les trois lettres dont je vous parle, et l'évangile de Jean, là on s'aperçoit que c'est le même vocabulaire, c'est la même syntaxe, c'est la même grammaire, c'est les mêmes sujets de prédilection. Il y a des bouquins entiers, alors je ne vais pas me vanter, mais j'ai un peu travaillé pour vous parler ce matin, je me suis tapé, il y a des bouquins entiers qui font l'analyse détaillée de ça, c'est impressionnant de voir à quel point, alors évidemment, nous on a la traduction, donc ça ne nous saute pas aux yeux, mais quand on prend le grec, c'est impressionnant de voir à quel point il est flagrant que l'évangile donc de Jean, que l'évangile de Jean, alors si on veut compliquer un peu les choses, l'évangile de Jean, elle n'est pas signée de Jean. L'évangile de Jean, on parle du disciple que Jésus aimait, et on dit à la fin, c'est ce disciple-là qui a écrit ces choses et qui rend témoignage, et nous savons que son témoignage est vrai. Mais, alors, c'est pas mon sujet, donc je vais pas m'y attarder, mais on sait, enfin, on a, encore une fois, toutes les raisons de penser, et on peut difficilement mettre en doute le fait que ce disciple que Jésus aimait, c'est Jean, fils de Zébédée. Et donc, quand on prend l'évangile et les trois lettres qui vont nous occuper pendant ce trimestre, on s'aperçoit que c'est la même chose. Si dans un siècle, on trouve dans les ruines de ce bâtiment des documents écrits mais pas signés, et que dans une page de ces documents, on voit qu'il y a écrit « Pierre et Paul ont été pour l'Église », ce que Mbappé et Neymar ont été pour le Paris Saint-Germain, on dira, tiens, ça c'est du Jiréa. Bon, c'est exactement ça, si vous voulez. Il y a une façon de signer ces textes sans les signer, qui ne trompe pas. C'est bien que c'est que personne d'autre n'aura pu écrire ça. Là, c'est un peu comme ça. Donc, tout ça pour dire que même si les lettres ne sont pas signées, il n'est pas du tout abusif de les attribuer à Jean. D'autant plus que, mais je l'ai évoqué, il y a l'âge. Bon, d'abord et avant tout, il y a la revendication par l'auteur, alors là très clair, d'avoir été non seulement contemporain, mais d'avoir été très proche de Jésus, du Jésus historique, du Jésus de l'histoire. C'est-à-dire que, si vous avez lu, et je n'en doute pas, ces lettres, vous savez que il dit moi je l'ai vu, je l'ai entendu et je l'ai touché, ce que nous avons du verbe de vivre, etc. Donc déjà il y a le fait effectivement d'avoir été un témoin oculaire de toute la vie de Jésus depuis le commencement, dit-il. Il y a l'âge, donc je disais que parce qu'effectivement se surnommer le vieux, bon, c'est pas tout, mais parce que chez nous on a des anciens qui sont relativement jeunes, hein. Ouf, ils sont contents là, ils ont eu chaud. Simplement effectivement, quand on s'adresse à un public en leur disant mes petits enfants, c'est-à-dire il se passera par exemple quelques décennies avant que Simon s'adresse à l'Église en disant mes petits enfants, il ferait ça maintenant, on le regarderait avec des yeux comme ça en disant, mais attends, t'es où, toi? Quelqu'un qui parle aux autres en disant « mes petits-enfants », c'est pas un gamin, de toute évidence. Et puis surtout, alors, dernier argument, il parle avec une autorité, et ça, c'est symptomatique. Quand on lit les autres écrits dont je vous parlais, les écrits, alors, je vais pas les énumérer, mais il y a Papias, il y a Irénée, il y a Clément de Rome, il y a Clément d'Alexandrie aussi, il y a beaucoup d'écrivains dont on a les textes. Les écrits des apôtres, c'est autre chose sur le terrain. D'ailleurs, la plupart des écrivains dont je viens de parler, c'est-à-dire de ceux qu'on appelle les pères de l'Église, ne font finalement que citer les apôtres pour développer leur pensée, mais n'ont jamais de pensée originale. Bon. Là, on a affaire à des textes qui, de toute évidence, émanent de quelqu'un qui, non seulement revendique, mais a une autorité reconnue par les destinataires des lettres. C'est-à-dire que c'est quelqu'un dont on place la parole à un niveau certain, qui est, encore une fois, caractéristique du niveau d'un apôtre. Tout ça pour dire que c'est pas abusivement qu'on parle de lettres de Jean, mais qu'on peut effectivement être dérouté du fait que ces lettres-là ne sont pas signées. Ça, c'était. Alors, une des choses, parce que évidemment, je ne peux pas parler de tout, je le disais tout à l'heure. D'abord, sinon, on y est pour un moment. Et puis, encore une fois, il faut pas priver tous ceux qui vont se succéder et qui vont entrer dans le détail des textes. C'est pour ça que je ne cite que très. Vous n'entendrez pas de citation biblique ce matin, parce que ce ne serait pas sympa pour les autres. Il y a quand même quelque chose qu'il faut savoir, c'est le contexte. Parce que ça, c'est intéressant. Si vous lisez ces trois lettres, vous vous apercevez que le ton est nettement polémique. C'est-à-dire que c'est pas un poème comme ça, au milieu de rien. C'est franchement une démolition en règle des idées qui ne sont pas les siennes, des conceptions qui ne sont pas les siennes, et on dirait aujourd'hui, et c'est presque, enfin c'est frappant, et ça pourrait presque être choquant, aujourd'hui où on admet volontiers un certain relativisme, c'est-à-dire que j'ai raison, mais toi qui penses le contraire, bah t'as peut-être pas tort, ou t'as peut-être raison aussi, ou on peut peut-être concilier les deux, lui, il est, comme on dirait aujourd'hui, manichéen, c'est-à-dire qu'il y a la vérité et l'erreur, on peut même dire la vérité et le mensonge, il y a le bien et le mal, le noir et le blanc, rien n'est gris dans ses écrits. Il y a ceux qui savent et ceux qui ignorent, il y a ceux qui, voilà, il y a ceux qui connaissent, ça c'est un des verbes les plus employés dans les lettres, il y a ceux qui connaissent et ceux qui ignorent. Il y a ceux qui sont du côté de Dieu et ceux qui ne sont pas de ce bord-là, donc qui sont ses ennemis. C'est vraiment extrêmement tranché. Et du coup, on voit, on sent à chaque, presque à chaque mot, en tout cas à chaque ligne, que c'est écrit dans un contexte conflictuel. Alors moi, il me paraît intéressant d'en parler un peu de ce contexte conflictuel. Donc je m'appuie, pas seulement sur les écrits du Nouveau Testament, mais sur les écrits des pères de l'Église, qu'on ne peut pas mettre en doute quand ils sont complètement convergents. Ça se passe à la fin du 1er siècle, parce que Jean... c'est celui de la vie générale qui a eu la plus grande longévité parmi les disciples, enfin parmi les apôtres, plus exactement. C'est-à-dire qu'ils sont tous morts les uns après les autres. La plupart de morts violentes d'ailleurs, parce que être apôtre, c'était pas sans risque. Et donc l'Église persécutée à l'époque, c'était pas un coin perdu de la planète. C'était l'Église naissante qu'on voulait étouffer dans l'œuf. Et donc, les apôtres qui sont morts de mort violente, c'est la majorité. Bon, lui, il se trouve qu'il a survécu, et il a été le dernier, ou en tout cas un des seuls, à atteindre un âge très avancé. Ça se passe à Éphèse, puisqu'il est à Éphèse. Donc pendant longtemps, il a pris chez lui, selon l'ordre qu'avait donné Jésus lui-même, il a pris chez lui Marie, la mère de Jésus. Vous vous souvenez, sur la parole sur la croix, « Femme, c'est ton fils, et à lui, c'est ta mère. » Et donc, le texte nous dit qu'à partir de ce moment-là, il a pris Marie chez lui, et ils ont cohabité. Mais là, on est beaucoup plus tard, et donc, dans un âge avancé, à Éphèse, Jean, j'allais dire, avec son autorité d'apôtre, et d'autant plus d'autorité que c'est le seul qui reste vivant, rayonne sur toutes les églises autour, et disons que toutes les églises autour, c'est en gros la liste des églises qu'on trouve dans l'Apocalypse, Apocalypse qui est de lui aussi, mais bon, c'est pas mon sujet. Mais donc le fameux dessin en escargot, parce que si vous prenez les lettres, les églises, les villes qui sont nommées dans l'Apocalypse, et que vous les reliez par un trait, ça fait un escargot. Donc le rayonnement de Jean, c'est tout ça. Manque de bol, il y a à l'époque, puisque là encore, faut faut se replacer dans le contexte. Aujourd'hui, tous les gens qui sont chrétiens ou qui se disent chrétiens pensent à peu près la même chose, il y a à peu près la même chose, de la doctrine du Christ lui-même. Avec, par exemple, sans polémiquer bien sûr, mais avec les catholiques, on a des divergences sur la place de Marie, sur les saints compris ou compris pas, enfin bon, des choses comme ça, mais globalement, sur la doctrine du Christ, tout le monde est d'accord. Et tout le monde est d'accord parce qu'au fil des siècles, on s'est mis d'accord, c'est ce qu'on a appelé les conciles, on s'est mis d'accord sur ce qu'il fallait en penser. Et il y a eu, y compris des votes, et il y a eu des discussions, des débats. Mais avant que tout le monde se mette d'accord et que toutes les conceptions convergent vers ce qu'on pense aujourd'hui du Christ, c'est parti dans tous les sens. C'est-à-dire que au premier siècle où effectivement on n'avait pas encore sélectionné certains écrits pour en faire des écrits sacrés, donc ce qu'on appelle le canon du Nouveau Testament était évidemment pas établi, donc certains écrivaient des choses, mais si je puis dire, c'était pas parole d'évangile, comme on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire que si on pensait le contraire, on s'autorisait à écrire le contraire. Paul écrivait des trucs, et il y avait d'autres gens qui disaient « mais moi je suis pas d'accord avec ça, avec ça, avec ça bon. ». Et progressivement, les choses se sont décantées, et la doctrine du Christ s'est décantée, mais à cette époque-là, c'était pas le cas. C'est important, j'ai l'air de raconter des choses plus intéressantes, mais c'est important parce que dans la façon de comprendre les textes qui vont être étudiés par mes petits camarades, si je peux me permettre, il faudra garder ça présent à l'esprit. À l'époque, il y a à Éphèse, et du coup Jean ça le préoccupe puisqu'il est à Éphèse, il y a un autre type dont on parle beaucoup moins aujourd'hui, qui s'appelle Cérinthe. Cérinthe, c'est aussi un idéologue du Christ, et c'est un des... Alors, il manque de bol, il est à Éphèse, et donc on trouve dans les textes des pères de l'Église, parce qu'évidemment ils ne peuvent pas se blairer tous les deux, hein, puisqu'ils ont ils défendent des opinions différentes, et donc aujourd'hui on dirait quand il y en a un qui aperçoit l'autre, il change de trottoir. Non mais c'est d'ailleurs amusant de lire les textes à ce sujet. Le fameux Cérinthe, lui, il est partisan d'une théorie que je vais vous exposer brièvement, qui s'appelle le docétisme, alors pardon pour le terme savant, docétisme ça vient d'un mot grec qui veut dire paraître, ça vient du verbe grec qui signifie paraître. Alors pourquoi paraître? Parce que, bon, nous qui avons, j'allais dire, la doctrine du Christ telle qu'elle est reconnue par l'Église depuis de nombreux siècles, on parle d'incarnation, c'est-à-dire, pour nous, Jésus c'est Dieu fait homme. Bon, ça nous paraît évident comme ça, mais au premier siècle, tout le monde ne pensait pas ça. Et le docétisme, c'est quoi? Le docétisme, c'est la doctrine, d'où le nom paraît, c'est la doctrine qui pense que Jésus, c'était un homme absolument normal, né tout à fait normalement. Alors, pour le docétisme, évidemment, tout ce qu'on met autour de la naissance de Jésus, les bergers, les mages, les machins, ça, c'est du folklore. De même, l'épisode à 12 ans dans le temple, faut que je m'occupe des affaires de mon père, tout ça, pour le docétisme, c'est du baratin. Donc Jésus a été quelqu'un d'absolument normal jusqu'à 30 ans, d'où la raison pour laquelle on n'en entend pas parler jusqu'à 30 ans, et à 30 ans, il a été baptisé, et là, effectivement, pour le docétisme, l'événement n'est pas interprété de la même manière. Et là, effectivement, la colombe, Dieu est venu habiter en lui, il n'était pas Dieu au départ, Dieu est venu habiter en lui, a pris possession de son enveloppe charnelle, parce que Dieu, pour les docètes, ne s'incarne pas, Dieu c'est un esprit, et donc Dieu, en esprit, est rentré dans le corps de Jésus, d'où la colombe est là, et il en est ressorti avant sa mort. Ce qui explique, par exemple, pour les docètes, pourquoi Jésus, tout d'un coup, se met à crier « Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ?» Dans le docétisme, cette parole-là, il faut l'interpréter par le fait que l'Esprit de Dieu quitte Jésus avant qu'il meure. Alors, je vais oser une comparaison qui ne se trouve nulle part, donc pardon si elle vous choque, mais pour les docètes, mais pour moi, elle a le mérite de clarifier les choses. Pour le docétisme, Jésus est divinisé de la même manière que d'autres sont démonisés. C'est le terme grec, c'est-à-dire on dit plus habituellement possédé par un démon. C'est-à-dire que quand une personne et Jésus délivre des démoniaques, les individus, les êtres humains ne sont pas le démon. Simplement, le démon entre dans le corps d'un individu et quand il est chassé, il s'en va. Et donc l'idée que se fait le docétisme de la divinité, entre guillemets, de Jésus, qui du coup n'en est plus une, c'est exactement la même chose. Dieu entre dans le corps d'un individu, j'allais dire presque choisi au hasard, Jésus de Nazareth, qui du coup devient, qui du coup change de comportement de la même manière qu'un démoniaque, si vous avez vu l'Exorciste, et puis donc Jésus devient effectivement le messager de Dieu, jusqu'au jour où, hop, il s'en va. Enfin, Dieu, l'Esprit de Dieu s'en va, et à ce moment-là, Jésus, qui crie son désarroi, parce qu'effectivement, être habité par Dieu, on s'y habitue, enfin, plus que par un démon, crie son désarroi en disant « Pourquoi tu t'en vas ?» Et là, il est resté seul face à lui-même, et évidemment, il meurt comme du coup n'importe quel être humain serait mort en étant supplicié. Ça, c'est très schématiquement le docétisme, avec des conséquences que je vais brièvement aborder après. Et ça, alors, effectivement, c'est la doctrine que nous, on connaît aujourd'hui, c'est la christologie que nous, on défend et que l'Église reconnaît unanimement depuis de nombreux siècles, qui va finir par prévaloir, c'est-à-dire, c'est pas ça qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de sa naissance à sa mort, Jésus est à la fois complètement homme et complètement Dieu, mais ça, c'est une idée qui va s'imposer contre toutes les autres, mais les autres, il y en a beaucoup. Et en fait, ce qu'il faut garder présent à l'esprit quand on va étudier ces textes, sinon il y a des passages qu'on ne comprend pas du tout, c'est que Jean défend ça contre la théorie opposée. Et quand il dit, par exemple, alors je m'étais promis de ne pas faire de citation pour ne pas spoiler, mais quand il dit, par exemple, c'est pas seulement l'esprit qui rend témoignage, il est venu aussi avec l'eau, c'est-à-dire, au moment de son baptême, contrairement à ce que vous dites, il était déjà Dieu, et avec le sang, c'est-à-dire, au moment de sa mort, il était encore Dieu, et les trois, l'esprit, l'eau et le sang, convergent vers un unique témoignage, et ce témoignage est vrai, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, celui qui croit, qui ne croit pas que Jésus est Dieu depuis sa naissance, et avant même sa naissance, bien sûr, mais depuis sa naissance jusqu'à sa mort, alors celui-là, il est dans ce qu'on appelle les hérésies, puisque en fait tous les pères, la moitié des livres dont je vous parlais tout à l'heure, des pères de l'Église, s'intitulent « Contre les hérésies ». Ils écrivent tous « Contre les hérésies ». Alors après, les hérétiques aussi écrivent « Contre les hérésies ». Mais en fait, l'essentiel de la démarche de Jean, c'est ça. C'est de dire, je défends contre l'idée que Jésus est un être humain qui a été temporairement habité par l'Esprit de Dieu. Moi, je défends l'idée qu'il est Dieu. Et c'est pour ça que, aussi bien dans l'Évangile, parce que ça a été écrit à peu près à la même époque, aussi bien dans l'Évangile que dans les lettres, enfin dans la première lettre, il défend l'idée que ce fameux Logos, parce qu'on est à Éphèse, donc Éphèse c'est aussi la ville d'Héraclite. Héraclite c'est celui qui a théorisé bien avant le Logos, en disant l'ordre du monde, parce que c'est difficile à traduire, c'est pour ça que je garde le mot grec, parce que on dit la parole ou le verbe, c'est compliqué. C'est beaucoup plus que ça. Logos c'est le mot grec dont on a tiré logique, c'est-à-dire conforme à l'ordre. C'est ça que ça veut dire dans la pensée grecque. La phrase qu'on traduit par « offrez vos corps et ce sera pour vous un culte raisonnable », le « raisonnable » en français traduit « logiké » en grec, c'est-à-dire « conforme au logos ». Bon, bref, je ne vais pas faire de la dissection, mais Jean, il s'attache à dire, et on pourrait se demander pourquoi il insiste à ce point, mais quand on sait les opposants qu'il a en face de lui, on comprend mieux, il s'attache à dire, non, c'est le Logos qui a été fait chair, et il a habité parmi nous. C'est pas un type pris au hasard, habité par l'Esprit de Dieu, qui est venu comme une colombe et qui s'est barré au moment où ça commençait à chauffer. C'est pas ça, l'incarnation. L'incarnation, c'est, et c'est comme ça que commence la première lettre, ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu et ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, du Logos de la vie. Donc, il insiste en disant, celui qui ne croit pas ça, parce que c'est pas, bon, bah, finalement, chacun son opinion, hein, pensez ce que vous voulez, de toute façon, ça change rien. Si, ça change tout. Ça change tout, pourquoi ? Ben, ça change tout parce que ça met pas à la même place l'esprit et le corps. Et là, on rejoint, enfin, c'est beaucoup plus facile pour la pensée grecque, enfin, pour quelqu'un qui est de culture grecque, de pencher du mauvais côté que du bon. C'est-à-dire que, pour les Grecs, fondamentalement, même si c'est très, très schématique de le dire comme ça, l'esprit, c'est bien, le corps, c'est mauvais. Donc déjà, l'idée que Dieu puisse habiter un corps, donc s'incarner, c'est une drôle d'idée, parce que d'abord, un Dieu, ça ne naît pas, ça ne meurt pas, et puis surtout, ça n'habite pas une enveloppe corporelle qui, par essence, est mauvaise. C'est le mal. Le bien, c'est l'esprit. Et ce qui fait qu'on accède à ce qu'on va globalement appeler le salut, c'est ce que l'esprit est capable de développer, autrement dit, la connaissance. C'est par la connaissance qu'on est sauvé. Ce que fait le corps, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est la connaissance. Et donc, c'est pour ça qu'on va... Pardon, ça sera le deuxième, mais ça sera le dernier terme un peu technique. C'est pour ça qu'on va les appeler les gnostiques. Gnostiques, alors rien à voir avec agnostique. Hein. Agnostique, c'est le contraire, c'est un A privatif. Donc agnostique, c'est ceux qui aujourd'hui pensent que justement, on ne peut pas savoir s'il y a un Dieu ou s'il n'y en a pas, donc il faut surtout pas se poser la question. Bon. Mais on va parler des gnostiques, c'est-à-dire ceux pour qui le salut, ça va passer essentiellement par la connaissance. Moi, je sais. Mais par contre, mon corps, qui est mauvais, peu importe ce qu'il fait. Et c'est là que Jean va s'élever contre les gnostiques en disant, attendez, être dans la vérité, c'est trois choses. C'est trois choses dont deux impliquent le corps, impliquent le comportement, du coup. Parce que, encore une fois, les gnostiques ne font absolument pas attention aux questions comportementales. Pour eux, c'est l'esprit et c'est le savoir. Et Jean va se battre pour dire, attendez, vous n'êtes pas dans les clous si vous n'êtes pas au clair dans trois domaines, dont deux, encore une fois, impliquent le corps. Le premier domaine, c'est qu'est-ce qu'on croit ? Et là, j'en ai parlé, j'y reviens pas. Si vous croyez que Jésus de Nazareth a simplement été temporairement habité par l'Esprit de Dieu, comme d'autres ont été habités par des démons, qui sont venus, repartis au gré des circonstances, vous vous plantez, et ça, c'est une erreur fondamentale, c'est-à-dire, vous n'êtes pas dans la vérité. Et donc, du coup, par le lien que je viens très brièvement de développer, mais vous me pardonnerez de pas en faire des tonnes, du coup, ça va ensemble, c'est pas facultatif d'obéir, c'est-à-dire de mettre son comportement en phase avec l'enseignement de Dieu sur, encore une fois, des choses qu'on fait avec le corps. Il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on doit faire et des choses qu'on ne doit pas faire. Et ça, les gnostiques n'en avaient rigoureusement rien à faire. Ils se permettaient absolument ce qu'ils voulaient parce que pour eux, ce n'était pas le sujet. Et Jean, dans toutes ses lettres, va dire, non, mais si vous ne faites pas la vérité, vous ne le connaissez pas. Alors qu'eux prétendaient le contraire. On connaît et c'est suffisant. Peu importe la manière dont on agit. Et lui va aller à l'opposé de ça en disant, si vous agissez à l'opposé de ce qu'il nous a enseigné par rapport à nos comportements, alors vous ne le connaissez pas, vous êtes des menteurs. Et il dit, mes petits enfants, ceux qui vous disent ça sont des menteurs. Et puis troisième volet. Donc, il y a, on va dire, une dimension théologique, une dimension morale et une dimension qu'on va appeler sociale, mais dans le sens que je vais définir maintenant, c'est qu'il dit, la conséquence de tout ça, c'est qu'on doit s'aimer les uns les autres. Et Jean, alors, dans les écrits dont je vous parlais tout à l'heure, on raconte, c'est vrai ou c'est pas vrai, peu importe, mais ça, il y a peut-être un fond de vérité là-dedans, que Jean était tellement vieux qu'à la fin il pouvait plus marcher, et que donc ses disciples, entre guillemets, c'est-à-dire les gens qui suivaient son enseignement, étaient obligés de le porter à la fin de sa vie, et à chaque fois qu'il les portait, il leur disait « Mes petits-enfants, justement, c'était sa formule consacrée, aimez-vous les uns les autres ». Et à un moment, ils ont fini par lui dire « Bon, essaye de nous dire autre chose, parce qu'à chaque fois qu'on te prend pour te porter, tu nous dis « Aimez-vous les uns les autres », maintenant ça y est, on a entendu, on a compris ». Et il leur répondait « Non, non, mais c'est parce que c'est l'essentiel. Si vous faites ça, vous accomplissez toute la volonté de Dieu. Mais par contre, et là il s'en prend dans ses lettres aux gnostiques, en disant, ceux qui disent que ça, c'est facultatif et qu'on n'a rien à foutre des autres, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils se prétendent sauvés par la connaissance, et bien la connaissance, que dalle. Parce que si tu n'aimes pas ton frère, tu n'as rien compris à qui est Dieu. Et donc, lui, foi, obéissance et amour, c'est indissociable. Et si vous n'avez pas tout ça, et tout ça en même temps, vous n'avez rien, virgule, mes petits-enfants. C'est pas moi qui parle, c'est lui. Donc c'est ça qui est sous-jacent. Et la violence, parce que là pour le coup on peut en parler, la violence avec laquelle il s'attaque au gnostique, au docétisme comme doctrine, c'est parce que pour lui, l'enjeu est vital au sens de la vie éternelle, c'est... je vous ai écrit ça, vous connaissez, une des phrases bien connues des épîtres, enfin des lettres de Jean, c'est « Je vous ai écrit ça pour que vous sachiez ». Et là, il prend le contre-pied, le savoir, pour les gnostiques, le salut par le savoir. Vous savez que vous avez la vie éternelle, parce que vous croyez au nom du Fils de Dieu. Mais croire au nom du Fils de Dieu, il le développe tout autour, c'est croire à son incarnation, obéir à ses commandements et aimer ses frères. Et si tout ça va pas ensemble, il n'y a rien, absolument rien qui tient. Vous êtes dans le mensonge, vous êtes dans l'erreur, vous êtes dans le noir. Et effectivement, pour lui, c'est tout noir ou tout blanc, vérité ou mensonge, vie ou mort, vous êtes mort. Si vous ne croyez pas, et si vous ne faites pas, et si vous n'aimez pas. Alors, je m'arrête là. Il y a beaucoup à dire et j'attends avec impatience les interventions de mes petits camarades pour rentrer dans le détail. J'espère que j'ai tracé à grands traits l'arrière-plan, le décor du tableau dans lequel Jean écrit et dans lequel il a beaucoup de choses à nous apprendre. Merci.